Rebonjour, vous allez bien?
Oui, merci.
En forme, la semaine, tout va bien?
Oui, merci.
Vous avez déjà eu le temps d'échanger, je suis content, ravi, c'est toujours une joie. Un peu de stress aussi, je ne vous cache pas, ce matin c'est très stressant, mais Dieu sait toutes choses. Mais ce qu'on va faire quand on est stressé, comme Jean Beethoven, on commence par la prière, on remet ça devant Dieu. Et que Dieu donne sa paix, que je puisse commencer là, je ne vous cache pas, ce stress. Vous voulez bien m'accompagner ensemble dans la prière? Alors, on a partagé une pensée tout à l'heure. C'est dans le calme et dans la confiance, Seigneur Jésus, que tu donnes. Tu assures, Papa. Je veux remettre vraiment ce moment entre tes mains, Seigneur. C'est un temps de culte, un temps où on est là pour toi. Je veux remettre les craintes, les peurs, le stress. Je les abandonne entre tes mains. Et je veux vraiment écouter, Seigneur, comme tu nous as partagé ce matin pendant ce temps d'intercession. Juste, merci, écoutez. Je vais écouter comme un disciple ce que tu veux nous dire, ce que tu veux me dire, ce que tu veux à ton Église. Seigneur, ce n'est pas par la force, hein, ni par une stratégie humaine, ni par le stress que je vais y arriver, mais je crois que c'est par ton esprit. Et je me remets. Viens, s'il te plaît, Seigneur. Accompagne ton fils, sois avec moi, mets ta parole dans ma bouche, dispose les cœurs. Nous sommes là pour toi. Je bénis chaque personne ici en ce lieu. Me donne une parole, Seigneur Jésus, pour chaque personne. C'est toi que nous voulons entendre, moi le premier, Seigneur. Parle, nous t'écoutons, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Je suis dans la suite, en fait, du thème qu'on est en train de traiter depuis quelque temps. Et là, le point que je vais aborder, c'est des disciples capables de se multiplier partout, des disciples capables de faire d'autres disciples. C'est un peu la partie que je vais voir, et vous pouvez supposer, si j'avance, que cette partie, la section que je vais traiter, se situe dans la prière visionnaire, comme on est en train de faire. Alors, on a parlé de l'Alliance, les gens sont partis pour l'Assemblée Générale, et on a cette prière visionnaire que l'on partage depuis quelques temps, qui nous rappelle, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens nous transformer de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de se multiplier partout. Mais j'ai essayé de réorganiser un tout petit peu la même prière. Ce que j'ai remarqué, c'est la même prière. J'ai essayé de redire la même chose autrement. Ô Dieu, nous te désirons. Voilà la prière. C'est déjà un cœur qui dit, Seigneur, je te désire. Mais ce que nous désirons de tout notre cœur, Seigneur, c'est que dans un premier temps, que tu viennes nous transformer. Voilà le désir de l'Alliance. Voilà le désir de chaque église de l'Alliance. Seigneur, nous voulons que tu nous transformes. Pour quelle raison ? Que je veux que tu nous transformes. Je l'ai mis sur plusieurs points. Premièrement, parce que notre désir, nous voulons être des disciples. Vous voulez être des disciples ici? Est-ce que vous le désirez? C'est ce que nous prions. Est-ce qu'il y a des gens ici qui souhaitent devenir des disciples? Mais Seigneur, nous désirons que tu nous transformes dans le but de devenir des disciples. Mais pas uniquement disciples, mais des disciples qui cochent quelques cases. Premièrement, un disciple centré sur Christ. Nous avons vu déjà ce point. Un disciple dynamisé par l'Esprit. Mélodie va traiter ce point. Normalement, c'était prévu dimanche dernier, mais Mélodie était malade, elle n'a pas pu traiter ce point. Axé sur la mission, on l'a vu aussi, avec Mélodie. Et moi, la partie que je vais voir avec vous, ce sont des disciples capables de se multiplier. Et je l'ai mis un peu en anglais, et ça revient à dire, ô Dieu, viens nous transformer, de telle sorte que nous devenions des disciples capables de se multiplier partout. Ce que j'aime dans cette prière, c'est que les disciples qui souhaitent se multiplier, capables de faire d'autres disciples, eh bien ce disciple commence par la première chose. Dieu, viens nous transformer. Ça commence par une transformation qui est possible par Dieu. Dans un objectif, que je devienne un disciple capable de se multiplier. Mais qu'est-ce qu'un disciple ? vous me direz, mon premier désir, c'est d'être un disciple. Effectivement, à vrai dire, j'ai passé du temps à chercher, creuser. J'ai dit, bon, je n'ai pas l'intention de venir faire un exposé ici des disciples dans tous les sens. Je voudrais prendre un exemple, rapidement, avec vous, et ensemble, nous allons voir quelque chose. Et ensemble, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'un disciple. Et c'est là que je vais lire avec vous, dans Jean, chapitre 1, les versets 35 à 39. J'ai découpé, et on va avancer au fur et à mesure. Ici, c'est quand Jean commençait, on est dans Jean 1, on parle de Jean-Baptiste, qui commençait à préparer le baptême, Jean-Baptiste baptise des gens, et que Jésus arrivait, Jean-Baptiste annonce, voilà Jésus qui arrive. Okay? Jean-Baptiste avait des disciples. Et le texte commence au verset 35, il nous dit, « Le lendemain, Jean-Baptiste, qui était encore là, avec deux de ses disciples. » J'ai mis « disciples » en gras, parce que l'objectif est de parler de disciples, pas de faire l'exégèse du texte. Mais je mets « disciples » en gras. Donc on comprend que Jean-Baptiste, à son époque, il avait lui-même des disciples. Ici, on en parle de deux. Et ayant regardé Jésus qui passait, Jean-Baptiste dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Il pointe du doigt et il montre Jésus à ses disciples. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, Jésus. » Et voyez, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. J'ai souligné beaucoup de points, là j'ai beaucoup d'exemples dans ce texte, sur un peu le discipulat. À l'époque de Jésus, l'idée d'avoir des disciples, en fait, il y avait des rabbins qui étaient là, ils formaient, les disciples marchaient avec... C'est une relation professeur-élève. Il y a un enseignant et les autres, les disciples, ils venaient, ils suivaient. C'était le cas de Jean-Baptiste, qui était un professeur. Le professeur Jean-Baptiste, qui était, voilà, il annonce que Jésus passait. Première chose que j'ai remarquée, en tous les cas, j'ai mis les verbes en gras, les deux disciples ont entendu la parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les deux disciples ont entendu la parole. Ils ont entendu le message de leur maître. Et qu'est-ce qu'ils se mettaient à faire après avoir entendu ces paroles? Ils suivèrent Jésus. Jésus se retourna. Ils ont entendu. Ils suivèrent. Jésus se retourna. Ils voyaient les disciples suivre. Un disciple suit son maître. Ça, il n'y a pas d'écart là-dessus. Quand on parle de disciple, c'est quelqu'un qui va suivre son maître. Et le maître lui dit, « Que cherchez-vous ? » Ils ont entendu parler de Jésus. Jésus est là. Ils se mettent à suivre. Et Jésus leur posait la question. Jésus ne m'a pas dit, pourquoi vous me suivez? Jésus demande, que cherchez-vous? Et là, ça a attiré mon attention. J'ai dit, les disciples qui suivaient Jésus, ils ne se contentaient pas uniquement de suivre. On nous a dit de suivre Jésus, donc, mais je marchais, je suivais, ce n'est pas grave, Jésus il marche, je fais ce que je veux. Mais ils désiraient quelque chose. Et qu'est-ce que ses disciples désiraient? Ils désiraient demeurer. Ils désiraient rester avec Jésus. Leur désir, ce n'était pas juste suivre pour suivre, mais c'était suivre pour rester, pour demeurer. Et quand on veut rester avec Jésus, quand on dit « Jésus, je veux te suivre », Jésus ouvre la porte. Il dit « C'est ça ton désir? Tu veux rester avec moi? Tu veux voir où j'habite? Viens chez moi. » Et quand ils arrivent, ils restèrent, encore un autre verbe, ils restèrent avec Jésus. Ce n'était pas venir voir uniquement, et c'était fini, mais c'était venir et rester auprès de Jésus, persévérer. Et là, j'ai mis un peu rapidement, les disciples ont entendu, ils ont suivi, ils ont cherché, ils ont demeuré, et derrière, ils seront transformés. Est-ce que vous voyez juste un peu? Peu, quelques zooms, en fait, comment ça se passe, et on va avancer. Que s'est-il passé? on lit les autres versets. Le lendemain, on continue. Les deux disciples, on n'avait pas l'identité des deux disciples. On a juste dit deux disciples au début. C'est clair pour vous. Et là, on a un peu plus de détails. André, c'est bien ça. Frère de Simon-Pierre. Ah, l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait suivi Jésus. En gros, deux disciples qui étaient avec Jean. Jean a montré, ce n'est pas moi qu'il faut suivre, c'est Jésus. Directement, j'ai oublié de le dire, ils ont arrêté de suivre Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Ils ont arrêté de suivre Jean-Baptiste. Ils ont dit, on y va, je vais suivre Jésus. En gros, quand on fait les disciples, peut-être que je peux l'oublier, l'objectif, quand on fait les disciples, parce qu'on est en train de prier pour faire des disciples capables de faire d'autres disciples, ce n'est pas de faire des disciples qui vont rester avec nous. Je n'ai pas vu Jean-Baptiste faire cet exemple-là. Son point, c'était, je montre Jésus. Je montre celui qu'il faut suivre. Ce n'est pas moi qu'il faut suivre, mais Jésus. Maintenant, les deux là, ils sont partis. On sait que c'était André. Et André, qu'est-ce qu'il fait? Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère, Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Qu'est-ce que vous remarquez? Ils étaient avec Jean-Baptiste, il est parti voir Jésus, il est resté avec Jésus, il est resté demeuré auprès de Jésus pendant quelque temps. Pendant qu'il est resté au pied de Jésus, Jésus l'a transformé, Jésus l'a changé en passant du temps au pied de Jésus, parce qu'il voulait ça, tout de suite après. Ah, il est sorti. Où il a commencé? Il a vu son frère. Il n'a pas eu le temps de faire des écoles de théologie, je ne sais pas, hein, si vous avez remarqué. Il n'a pas fait d'études. Il est passé juste un temps resté auprès de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est parti faire directement? Il est parti annoncer la bonne nouvelle. J'ai rencontré Jésus. Nous avons trouvé le Messie. Enfin, je l'ai trouvé. Et il l'a pris. Il l'a conduit vers qui?
Vers Jésus.
Vers Jésus. Vers Jésus. Et il conduit. Et l'ayant regardé, Jésus qui voit Simon maintenant, et il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Celui qui a rencontré Jésus, Jésus l'a transformé. Il n'est plus Simon classique, je te prends, je te change de nom, parce qu'il a été conduit vers Jésus. Est-ce que je voulais faire un schéma, des logiques, je n'ai pas eu le temps de le faire. Un disciple qui va vers d'autres disciples, qui rencontre Jésus, Jésus transforme, pas beaucoup de temps, mais il était capable d'aller dire ce qu'il a vécu avec Jésus. J'ai rencontré le Messie, eh bien qu'est-ce que je fais? Je vais dire aux autres, j'ai rencontré le Messie. Donc du coup, c'est simple. La question que je vous pose, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Quel est votre témoignage? Qui est Jésus pour toi? Qui est Dieu pour toi? Là, tu rencontres un païen dans la rue très vite, tu lui demandes, parle-moi de ton Dieu. Tous les dimanches, tu vas à l'église. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Qui est Dieu pour toi? Eh bien, ton témoignage, ça commence tout simplement par là. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Quelqu'un qui est malade, qui était malade et qui a vécu la guérison avec Dieu, peut tout simplement dire, moi, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Toi, si tu es malade, eh bien, Dieu peut te guérir. Suffit. Il n'a pas besoin de dire plus que ça. Il a dit ce qu'il a vécu, son expérience personnelle. En résumé, je reprends un peu ce que j'ai dit. André, qui a entendu la parole, il ne pouvait pas garder cette parole pour lui. Parce qu'il a rencontré Jésus. Jésus l'a changé, Jésus l'a bouleversé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va le dire. Automatiquement, naturellement. André, avant de chercher les foules, il a commencé par sa famille. André n'a pas dit, ah, maintenant, je rencontre Jésus, ok, qu'est-ce que je vais faire? Ah, il faut que j'aille prêcher, il faut une église, il faut... Non! Son périmètre. Donc toi et moi, nous pouvons en parler. Nous pouvons témoigner. On commence par la famille, on commence par un frère, on commence par une sœur, on commence à l'école, on commence avec des amis. Je vois plein d'invités qui sont là. Quelqu'un a fait le travail, a dit, invité, bah viens, viens avec moi. Et la multiplication que nous sommes en train de parler commence là. Il commence dans notre premier cercle. Il commence avec les gens qui sont autour de nous. Je l'ai déjà dit, André n'a pas cherché à convaincre son frère par de longs discours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué la même chose que moi. Il a juste dit, j'ai trouvé. Il n'a pas expliqué, il n'a pas plein de doctrines dedans. André n'a pas fait de miracle, même si des fois, il y a des cas de miracle. André a tout simplement pris la personne et il l'a emmenée vers Jésus. Et il a partagé son témoignage. Voilà comment André l'a fait de manière simple. On avance encore dans la multiplication. Toujours dans Jean, je continue ce texte en fait qui parle de multiplication. Le lendemain, pas beaucoup de temps encore, c'est vraiment comment une rencontre avec Jésus transforme une rencontre, on passe du temps avec Jésus, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque un mouvement rapide. Le lendemain, là maintenant c'est Jésus qui initie le mouvement. Nous avons vu tout à l'heure avec Jean-Baptiste, maintenant c'est Jésus. Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Jésus dit à Philippe, suis-moi. Pas de long discours encore. Tu veux venir? Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Simon. Philippe, parce que vous regardez encore la démarche, j'aime bien ce texte. Il a juste rencontré Jésus. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Philippe rencontre Nathanaël. Et il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Parler de Jésus, faire du discipulat, entrer dans la multiplication des disciples, c'est tout simplement parler de Jésus. Parler de Jésus à nos proches. J'ai trouvé. Jésus m'a guéri. J'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé la joie. J'ai trouvé la paix. J'ai trouvé une famille. J'ai trouvé ce que vous avez trouvé en Jésus. Qu'est-ce que vous avez trouvé en Jésus? Qu'avez-vous trouvé en lui? Moi, une chose est sûre. Ça, c'est moi, Jean-Béthoven, personnellement. Effectivement, Dieu me fait grâce, ok, je prends des cours. Mais s'il y a une chose, moi, je suis prêt à mettre ma main à couper dans la Bible, c'est que Dieu, il est fidèle. Ça, moi, je le crois. Je le crois à 1 000 000%. Personne ne peut enlever ça de moi. Ça m'habite. La fidélité de Dieu, ça vit en moi. Je sais que Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Donc du coup, moi, quand je parle à quelqu'un, j'ai envie de te dire tout simplement, hey, Dieu est fidèle. Si Dieu te dit oui, ce sera oui. Si Dieu te dit non, ce sera non. T'embête même pas. Même quand il y a des vents, il y a des orages, il y a des tempêtes, Dieu est fidèle. Ça, c'est mon témoignage. Mais toi, que veux-tu dire à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui te convainc de Dieu, là, ce Dieu que nous servons? Dans un autre texte, je ne voulais pas prendre trop d'exemples, c'était un homme qui était aveugle. Cet homme-là, Jésus l'a guéri. Il est rentré dans le temple, il commence à parler, les autorités viennent, et lui dit, mais qui t'a guéri? Qui était cette personne-là? Pourquoi? Lui a dit, écoute, moi, je ne sais rien. Tout ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ne me demande pas autre chose. Parce que là, je connais là où j'étais, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a changé, et c'est mon témoignage. Maintenant, je vois. C'est tout ce que je peux dire. Donc, je connais quelqu'un qui donne la vie. Si toi, si t'es aveugle, eh bien, va le voir indirectement. Si toi, t'es malade, eh bien, va le voir. Parce que ça, c'est mon témoignage. Et vous, quel est votre témoignage? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et c'est ça que tu dois te lever, que tu dois aller partager. Pas plein de théologie. Pas plein, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Est-ce qu'il a été vraiment à la croix? Ok, si c'est ce point qui t'a convaincu, va le dire. Va le dire. Mais l'idée, ce n'est pas vraiment ça. Dis vraiment ce qui t'habite. Tu étais malade, dans une situation difficile, tu ne savais pas. Et là, tu as fait appel à Jésus. Il est venu à toi, il t'a guéri. Va dire aux autres, moi, Dieu guérit. Ok, c'est tout. Je n'avais pas de famille, j'ai trouvé une famille. C'est tout. Dieu conduit toutes choses. Ne fermez pas la bouche. Nous pouvons le faire. Et faisons-le pour Jésus. Et il continue, il dit, nous avons trouvé. Et Nathanaël lui dit, j'aime bien cet exemple, quand Philippe est parti voir Nathanaël pour lui parler. Et Nathanaël lui dit, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ah, quand on annonce l'évangile, des fois, on rencontre des sceptiques. On rencontre des gens qui nous posent des questions. Et là encore, Philippe ne rate pas notre discussion. Oui, oui, c'est ce Jésus-là qu'on a vu et que le prophète. Voilà, regarde, va lire Esaïe. Esaïe a parlé de serviteur. Il a dit, viens et vois. Moi, tout ce que je sais, c'est viens et tu verras. Je n'ai pas besoin de te dire autre chose. Voilà, tu ne crois pas. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon, quelque chose de mauvais? J'en sais rien, tout ça. Encore, ils évitent tous des longues discussions. Viens et vois le message que nous avons à partager. Quand on est dans la rue, on rencontre un collègue qui a un problème. Écoute, ah, moi j'ai la solution quelque part. Viens à l'église avec moi et tu verras comment ça se passera. Viens et tu verras comment ça se passera à l'église. Viens et vois. Simple comme bonjour. Et après, maintenant, la difficulté, c'est le culte. Quand tous les gens commencent à dire aux autres, viens et vois, et que les gens viennent, il faut qu'ils voient. Et c'est là qu'on a besoin de prière. Seigneur, aide-nous. Aide-nous pendant le culte. Donne-nous des paroles, donne-nous des pensées. Inspire le culte, inspire la louange, inspire tout ce qui se passe dans le culte. Il y a des paramètres, nous ne les maîtrisons pas. On ne les a pas en main. Dieu seul sait, toi qui es venu, qui t'a invité, pour quelle raison t'es là? Qu'est-ce qui t'a amené ici, en ce lieu? Je ne le sais pas. Je ne pense pas que Cathy, qui conduit la louange aussi, ait une idée. Mais tout simplement, Seigneur, je m'abandonne à notre thème. Hein, toi qui dirige toutes choses, eh bien, conduis. Et là, quand la personne viendra, on verra ce qui se passe. Je résume rapidement. Ici, avant d'avancer. On a vu dans ce cas, maintenant, c'est Jésus qui a fait l'initiative. Hein, ce n'est pas Philippe qui est venu voir Jésus. Jésus, je veux te suivre. C'est Jésus qui dit, Philippe, toi, viens, suis-moi. Des fois, le nouveau disciple, comme je l'ai déjà répété, peut rencontrer des objections. Mais n'oubliez pas, les objections ne sont pas un obstacle. Mais au contraire, c'est une occasion pour dialoguer. Quand on rencontre des gens qui commencent à entrer dans des discussions, ne fuyez pas. C'est une occasion pour essayer de comprendre. Peut-être qu'il y a des choses plus profondes derrière. Et une chose que je fais souvent, et je veux me rappeler toujours de ce verset, quand je suis en évangélisation, quand je rencontre des gens, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas moi qui convainc. Je peux faire tout ce que je veux avec un beau discours, bien travaillé ou autre. Non, je ne peux pas convaincre. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je ne cherche même pas ça. Ce n'est plus ma priorité. Eh bien, comment ça se passe? Mais je commence à prier. Eh, ok, d'accord. T'as le souci? Bah, Seigneur, tu as entendu. Et moi, je suis en train d'intercéder. Et pendant que j'intercède en même temps, eh bien, le Seigneur donne une idée. Et il conduit toute chose. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Il n'a pas cherché à gagner un débat. Il invite tout simplement à faire la même expérience. Viens et vois. Voilà un peu le résumé. On avance encore dans cette multiplication. Là, c'est un peu petit. On continue toujours le texte. Le texte, il est long, mais je vois bien ce schéma de multiplication. Jean, toujours dans le verset 47 à 51 maintenant. Philippe a invité Nathanaël. Nathanaël était réticent. Et Jésus, maintenant, il voit Nathanaël arriver. Parce que là, on l'a invité, on l'amène au culte. Et voilà, on voit la personne arriver. Et avant même que Nathanaël ait à ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, Jésus dit, voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Bon. Le bouscule. Jésus, qu'est-ce qui peut venir de bon? Et là, bam, Jésus dit, toi là, avant même que tu t'assoies ici, je te connais. Je sais ce qui se passe dans ton cœur. Je sais que dans ton cœur, il n'y a pas de fraude. À ma prière, c'est que vraiment, que dans l'Église, là, que Dieu nous donne des paroles de connaissance. Que Dieu nous donne des paroles de sagesse. Que Dieu nous donne qu'on puisse manifester tous les dons spirituels que nous avons dans la Bible. Que nous les voyons. Que comment, bam, le Seigneur nous donne une pensée, une réflexion que personne ne peut comprendre. Que personne ne peut dire, ça tu ne me l'as pas dit, je ne le sais pas d'avance. Mais, et là, la pensée elle est venue. Et on partage la pensée. Et Dieu sait que cette pensée va droit au but, va direct dans un cœur. Et que là, on ne peut pas rester encore à se dire non, ce n'est pas possible, on ne peut pas. Là, on plie les genoux. On plie les genoux directement devant Dieu. Et il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et lui, il dit, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Pourquoi tu arrives à parler de moi comme ça? Et Jésus lui dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, je te connais déjà. Certaines fois, on va évangéliser des gens, on va leur parler, mais il faut juste... Dieu savait déjà cette personne. Tu avais juste à prendre, inviter, venir, et Dieu lui dit, t'inquiète pas, je te connais, je connais ton passé, je sais qui est ton père, je sais qui est ta mère, je sais ce que tu vis actuellement. J'ai la solution. Viens à moi. Et c'est ce qui se passe. Et là, Nathanaël, qu'est-ce qu'il fait? Il répondit, il obéit, il vient directement à Jésus, il le confesse, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il n'y a plus de débat maintenant, il n'y a plus de « qu'est-ce qu'il peut venir de bon, là-bas ou non ou pas ?» Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu à convaincre. Une parole de connaissance de Jésus, « Je te connais !» Et là, c'était plié. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, maintenant tu crois ?» Jésus dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Le plan de Dieu pour nous, mes bien-aimés, quand on vient à lui, ce n'est pas uniquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient, on voit, et puis après on s'arrête. Le désir de Dieu, c'est pour nous faire vivre de plus grandes choses encore. Pas pour rester à l'état où on est arrivé, eh bien c'est bon, j'ai vu Seigneur, c'est bon, je suis satisfait. Non, mes bien-aimés. Dieu veut nous emmener encore plus loin. Il veut t'emmener plus loin, il veut m'emmener plus loin. Il veut nous emmener plus loin avec lui. C'est son rêve, c'est ce qu'il veut. Mais nous devons juste le désirer. Et Jésus dit, en vérité, il s'engage, Jésus. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de Dieu. Vous verrez des choses extraordinaires. Viens tout simplement. Reste avec moi. Reste à mes pieds. Et demeure. Je peux dire encore beaucoup de choses que j'avais noté ce matin, j'ai dû enlever. Sinon, la prédication sera trop longue et on a aussi la Sainte Cène à faire après. Mais je veux revenir au thème qu'on est en train de traiter. Disciples. Mais selon vous, dans tout, parmi tout ce que nous venons de dire, que veut dire un disciple de Jésus dans l'ensemble? Que veut dire un disciple de Jésus? Eh bien, j'ai pris une définition plutôt moins, on va dire, officielle. Un disciple, quels que soient ses dons, ses aptitudes et son ministère, est avant tout appelé à suivre son maître, à témoigner au quotidien, à poursuivre sa mission personnelle au sein de la mission de Dieu et du développement du royaume. Un disciple, il suit Jésus. Ça, j'ai écouté l'évangile de Matthieu. À chaque fois qu'il y a un disciple, le verbe qui revient le plus souvent, c'est suivre. Un disciple suit Jésus. Et maintenant, ma question que je vous pose, qui suivez-vous? Pasteur Marc? Bien sûr, hein, c'est bien ce notre pasteur. L'Église? La CM? Qui suivez-vous? Ah, mais l'objectif, c'est de suivre Jésus. Que nous soyons tous comme des Jean-Baptiste. Ne pas me suivre. S'il vous plaît, ne me suivez pas. OK? Mais mon objectif est de vous montrer qui il faut suivre. Et c'est la personne qu'il faut suivre, c'est Jésus. Et mon désir, c'est de venir avec vous, ensemble. Je me mets là et je regarde Jésus aussi avec toi, comme un disciple. Un disciple suit Jésus. À l'époque de Jésus, le disciple, il imitait même son maître. Il faisait ce que le maître faisait. C'était son modèle, il passait du temps avec. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire, toi et moi. Suivons-le, imitons-le, faisons comme Jésus. Là où j'ai mis la source, où est-ce que j'ai pris cette citation? Comment être un disciple capable de faire d'autres disciples? Parce que la prière, c'était bien ça. Seigneur, aide-nous. Seigneur, transforme-nous pour que nous soyons en capacité de faire d'autres disciples. Comment faire? Et je pense que le premier pas, il faut être d'abord un disciple. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si tu n'es pas disciple, si tu ne suis pas, tu ne pourras pas en faire d'autres. Et ce que j'ai remarqué aussi, que j'ai noté, c'est de demeurer avec Jésus. Pour pouvoir faire d'autres disciples. Premièrement, moi, je deviens disciple. Moi, je commence par suivre Jésus. Et pendant que je suis Jésus, je reste à ses pieds. Quand je lis Jean, chapitre 15, versets 7, 8, franchement, Jean, il parle, chapitre 15, il parle que de ça. Vous verrez le verbe demeurer, 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 va répéter plusieurs fois. Jésus dit, si vous, c'est la parole avec serpe et sarment. Je ne vais pas commenter encore une fois, sinon je vais déborder. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La solution, restez attaché, restez demeuré en Jésus, restez accroché avec lui et vous lisez ses paroles. Il a laissé la Bible, la parole de Dieu, qui nous dit, voilà comment le maître fonctionne, quel est le principe, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc si je veux suivre Jésus, eh bien je demeure, je reste à ses pieds, j'écoute, je passe du temps avec lui, je le laisse me transformer et après, là, je serai en mesure de dire, je vais faire d'autres disciples. Comment être un disciple? Deuxième partie, j'ai dû le mettre pour voir un peu plus grand. Mais un disciple, pour pouvoir faire des disciples, on a besoin de dépendre du Saint-Esprit. On n'y va pas par la force. On ne peut pas y arriver par une stratégie humaine, c'est raté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Donc quand on arrivera, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais on dépend de l'Esprit. Quand on lit le livre des Actes des apôtres, on va voir des fois, les apôtres ils disent, on va aller à droite, on écoute l'Esprit. Ah, l'Esprit de Dieu dit, non, non, finalement, tu vas à droite. Ah, finalement, tu vas aller à gauche. Donc, du coup, il faut dépendre de l'Esprit de Dieu. Seigneur, comment tu veux faire les choses? Dépendre de l'Esprit Saint. Non pas par ses forces, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Et je prends juste un exemple de Actes, chapitre 1, les versets 4 et 5. Il nous dit, comme il se trouvait, on est dans Actes maintenant, comme il se trouvait avec eux. Et il leur recommanda, dit Jésus. C'était avant la Pentecôte, c'était avant l'Ascension. On est au début du livre des Actes. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner à Jérusalem, de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Comment ça se passe? Là, on voit Jésus, il est mort. On est dans la phase où Jésus était encore avec ses disciples avant l'ascension. On pouvait dire après la croix, c'est bon. Jésus a déjà donné le mandat. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ils auraient pu y aller. Le combat, en gros, la mission, elle est donnée. Faites des nations des disciples. Avant de partir, Jésus dit, j'ai mis en rouge, attendez. N'y va pas comme ça. Attendez quelque chose. Non. Va pas avec tes forces. Mais qu'est-ce qu'il fallait attendre? Il dit attendre ce que le Père avait promis. Et qu'est-ce que le Père avait promis? C'était l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui devait arriver le jour de la Pentecôte. 10 ou une dizaine de jours après l'ascension. Et là, les disciples étaient en capacité. Là, ils pouvaient y aller. Avant, n'y va pas. Et c'est ce même conseil que j'ai envie de nous donner tout à chacun. Attendons, dépendons-nous de l'Esprit Saint. Seigneur, remplis-moi. Dis-moi comment faire. Et là, on y va. Un exemple rapide. Paul, Pierre, au début, quand Pierre commençait, Pierre dit, Jésus, moi, je n'ai pas de problème. Tout ce que tu veux, moi, je vais le faire. Je suis prêt à aller en prison avec toi. Je mourrai pour toi. Je ferai tout pour toi. Jésus a dit, Pierre, doucement, doucement. Ça ne se passe pas comme ça. Avant que le coq chante là, tu vas me régner doucement. Non, 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 non. Jésus a pris le temps, effectivement, on connaît l'histoire. Eh bien, ce même Pierre qui était décidé, avec sa volonté, les bras forts, je vais le faire, je vais évangéliser Cloverdale, je vais, voilà, on va ramener plein de chrétiens, Jésus, on est là, on le veut. Dis doucement, attends. Jésus va rétablir Pierre après. Et après, le jour de la Pentecôte, quand cette promesse est accomplie, Pierre n'est plus le même Pierre. C'est un Pierre maintenant révertu de l'Esprit Saint. Pierre prend la parole. 3 000 âmes, bam, conversion, multiplication des disciples. Et si vous regardez bien le texte que j'ai pris dans Jean, comment Pierre a eu cette parole, lui? C'était André, son frère, qui lui avait juste annoncé, voici l'agneau de Dieu. Et ce même Pierre va suivre Jésus. Et ce même Pierre va prêcher 3 000 âmes. Un seul homme a juste dit, j'ai trouvé, mais ce j'ai trouvé là a convaincu quelqu'un qui derrière va faire 3000. Est-ce que vous réalisez la puissance de la multiplication? Quand on est juste capable de dire un mot, que le Seigneur m'a guéri, venez à Jésus, et puis c'était juste ça, tu n'imagines même pas, et que cette même parole va provoquer une multiplication. On me raconte l'histoire de Billy Graham. On dit, Billy Graham, celui qui a évangélisé, qui a fait bénéficier des millions de personnes sont venues à Dieu avec Billy Graham. On racontait son histoire. Quand il venait, il y avait un rassemblement. Il y avait un rassemblement. On disait, il n'y avait pas de place. Il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Il y avait quelqu'un qui était là, qui plaçait les gens. J'ai bien dit, hein, quelqu'un de l'anonymat, qui mettait les gens, qui trouvait des places. Billy Graham était là, il était avec un ami, il devait avoir 13 ou 14 ans. Étant donné qu'il n'y avait pas de place, Billy Graham est parti. Il a dit, ah, je ne peux pas suivre. Il est parti. La personne qui faisait, qui plaçait les gens, a vu Billy Graham partir. La personne est partie voir Billy Graham. Il dit, viens. Il a fait en sorte qu'il écoute. Il a dit, viens, je te fais deux places là, avec ton ami. Écoute. Et Billy Graham est resté ce jour-là. Il n'est pas rentré chez lui. Parce que quelqu'un, un anonyme, a fait de la place pour lui. Juste fait de la place. Vous voyez, il n'a pas parlé de Jésus, ni rien du tout. Mais dans son ministère, son rôle qu'il avait à jouer, c'était juste placer des gens à l'église. Il a dit, j'ai deux personnes là qui sont en train de partir. Ils ne vont pas entendre le message de l'évangile. Faisons en sorte de leur trouver deux places. Il a trouvé deux places pour Billy Graham. Billy Graham a donné sa vie à Jésus ce jour-là. Et là, bam, ce Billy Graham va évangéliser des millions de personnes à travers le monde. Mais bien aimé, dès qu'on a la possibilité de parler de Dieu, n'hésitez surtout pas. En France, il y a une loi, et je m'arrête là, sinon je vais trop parler. C'était ma crainte pour ce texte. Je ne sais pas si cette loi existe ici, et je l'espère, non-assistance à la personne en danger. Tu vois, tu passes sur la route, tu vois quelqu'un qui est tombé par terre, qui a un problème, tu n'as pas le droit de passer et de laisser la personne. Tu restes avec, on ne te demande pas de secourir, hein. Tu prends ton téléphone, à minima, tu appelles la police. Tu appelles les pompiers, tu dis, il y a quelqu'un qui est en danger, il faut l'aider. Si tu ne le fais pas, c'est puni par la loi. Vous savez que c'est la même chose dans la vie chrétienne. J'ai été guéri. Et je connais quelqu'un qui est malade, je ne lui dis pas de venir à Jésus. Non assistance à la personne en danger. Non assistance. Tu l'as pas porté secours quand même. Tu connais la solution. Tu ne partages pas la solution. Je connais quelqu'un qui change d'avis. Et tu vois quelqu'un qui est là, qui est dans la dépression ou autre, tu ne lui dis pas, écoute, va trouver Jésus. Jésus change d'avis. Non assistance à la personne en danger. Et je vais m'arrêter parce qu'il faut aller passer au temps de la Sainte Cène. On reprend la prière visionnaire qui nous dit, oh Dieu, nous te désirons, mais ce que nous désirons le plus là ce matin, viens nous transformer. Viens nous transformer pour que nous soyons dans un premier temps des disciples. Ce que nous voulons, être des disciples. Et je veux être des disciples capables de faire d'autres disciples, capables de multiplier. C'est votre désir? Eh bien, nous allons juste nous lever. Je ne sais pas si on a l'habitude de prier ensemble. Voilà, vous m'excusez. Nous allons juste prendre un temps et nous allons reprendre un peu cette prière. Oh Dieu, nous te désirons. Vous voulez le dire ensemble ou non? Je coupe mon micro. Je vous laisse répéter ensemble. On fait cette prière ensemble. Allez-y.
Nous désirons tout notre cœur. Viens nous transformer de sorte que nous devenions des disciples, centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de se multiplier partout. Là, c'est la version en anglais. Approprions-nous ces paroles et maintenant, prions nous-mêmes. Dites, Seigneur, ces paroles sont pour moi. Viens me transformer pour que je sois capable de multiplier d'autres disciples. Prions ensemble. Peut-être qu'on n'a pas cette habitude, mais permettez-moi de bouger un peu. Si on pouvait juste élever la voix tous ensemble et dire, Seigneur, je te désire, viens me transformer pour que je sois un disciple capable de faire d'autres disciples. Et prions ensemble. Ah, Seigneur Jésus, je veux juste te dire encore une fois, Seigneur, comme l'Alliance le dit, et je veux dire avec l'Alliance, viens me transformer, viens me changer, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Et cette transformation,
c'est toi qui peux le faire. Ô Dieu, viens me transformer pour que je sois un disciple, pour que je puisse te suivre, Seigneur Jésus, pour que juste je puisse faire ta volonté, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Que je sois capable de faire d'autres disciples, que je ne regarde, que je ne garde pas pour moi, comme Jean-Baptiste, mais que je puisse montrer le chemin, que je ne compte pas sur ma force, mais je compte sur toi, je compte sur ton esprit, parce que toi seul et toi seul es capable de convaincre. Je te dis merci. Transforme-nous, transforme ton Église pour que nous soyons une assemblée de disciples capables de faire des disciples. Non pas par la force, non pas avec notre intelligence, non pas avec une stratégie humaine, pas ma stratégie, mais par ta stratégie, par ton plan, par ce que toi tu veux, au nom de Jésus. Amen. Je crois que j'avais terminé par une petite pensée, j'ai oublié. C'est un rappel d'une pensée de Saint Augustin qui nous dit « Dieu ne commande jamais sans donner la grâce nécessaire pour accomplir ce qu'il demande. » J'aime cette pensée de Saint Augustin et je vous laisse avec. Dieu ne commande jamais. Quand Dieu ordonne, il donne la capacité de le faire. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, n'hésitez pas, il a déjà tout prévu. Soyez bénis.